Mais je voudrais faire un constat pour commencer. Vous savez, quand on lit la Bible, quand on a l'habitude de lire la Bible, on peut trouver ça très exigeant parfois, ce qu'on lit dans la Bible, hein. Que ce soit dans l'Ancien Testament, ou que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans le discours des prophètes, que ce soit dans le discours des apôtres, que ce soit dans le discours de Jésus lui-même. On voit souvent dans ces lectures-là que Dieu y met la barre très haut par rapport à ce qu'il attend de nous. Les êtres humains, nous qui sommes ses créatures. Fais pas ci, fais pas ça. En revanche, fais ceci et fais cela. Voici comment tu dois vivre si tu veux que ta vie soit conforme au projet de Dieu. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous y arrivez, vous? Parce que moi, personnellement, je trouve ça dur. Moi, personnellement, j'ai du mal à vivre selon Dieu. J'ouvre ma Bible et je lis des trucs comme... Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je me mets à transpirer un peu. Soyez patient dans la tribulation, persévérez dans la prière. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous y arrivez, vous? Parce que si vous y arrivez, alors je vous dis tout de suite, ça ne sert à rien d'écouter la suite de cette prédication. Hein. Vous êtes dispensé de prédication ce dimanche. Mais si vous n'y arrivez pas, alors je vous conseille de bien écouter la suite. Parce que la question qui est soulevée justement dans le texte qu'on est sur le point de lire et puis d'étudier ensemble, c'est justement la question suivante. Qu'est-ce qui peut nous aider à vivre selon Dieu? Qu'est-ce qui peut nous aider à vivre selon Dieu? Est-ce qu'il nous faut une plus grande discipline? Une plus grande rigueur dans la vie? Est-ce qu'il nous faut instaurer un système de châtiment plus strict? Vous savez, à chaque écart, je vais me prendre une claque ou un truc, je sais pas, un truc comme ça. Est-ce qu'on doit consacrer plus de temps à l'enseignement et à l'apprentissage, du coup, de la morale chrétienne? Alors, toutes ces choses ne sont peut-être pas foncièrement mauvaises en soi, mais ce que le texte d'aujourd'hui va nous apprendre, c'est que c'est pas tout ça qu'il nous faut avant tout. C'est pas tout ça qu'il nous faut avant tout. Non, ce qu'il nous faut avant tout, d'après l'apôtre Paul, dans ce passage, ce qu'il nous faut avant tout, c'est mieux comprendre ce que ça veut dire d'être un chrétien. Mieux comprendre ce que ça veut dire d'être un chrétien, c'est-à-dire ce que nous sommes si nous sommes chrétiens. Et ça peut paraître tout bête, mais c'est ça, en fait, qui va nous aider à vivre selon Dieu. Comprendre ce que ça veut dire d'être un chrétien, ce que nous sommes. Si nous sommes chrétiens. Alors avant de lire le texte, il faut bien comprendre que le but de Paul dans ce passage, et ça c'est pour vous donner un peu le contexte de ce passage, parce qu'on va lire à partir du chapitre 8, mais il y a 7 chapitres qui précèdent dans l'épître aux Romains. Le but de Paul dans ce passage, c'est vraiment d'encourager ses lecteurs à vivre dans l'obéissance à Dieu. Il veut donc les aider à vivre selon Dieu. Et c'est exactement ce qui nous intéresse cet après-midi. Mais pour ça, il va leur parler surtout de certaines choses qui les caractérisent, ces lecteurs, en tant que chrétiens. Des choses qu'ils ne savaient peut-être pas pour certains d'entre eux, ou peut-être des choses qu'ils avaient négligées, ou peut-être des choses dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils sous-estimaient dans leur vie. Et au cœur de tout ça, vous allez voir qu'il y a la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et Paul va rappeler à ses lecteurs qu'en devenant chrétien, il y a eu au moins 3 changements notables dans leur vie et dans leur rapport à ce que Paul va appeler la loi de Dieu, c'est-à-dire tout simplement les exigences de Dieu. 3 changements, un changement de verdict, un changement d'appartenance et un changement d'esprit. Et c'est le fait de comprendre ça un peu mieux qui va nous aider à notre tour cet après-midi à vivre selon Dieu. C'est ce qui va même changer, je l'espère, d'ici la fin de cette prédication, qui va changer notre perception de ce qu'on appelle la loi de Dieu ou des exigences de Dieu. Si bien qu'on va pouvoir dire, je l'espère en tout cas, on va pouvoir dire à la fin de cette prédication, tenez-vous bien, que vivre selon Dieu, c'est pas une contrainte, mais c'est une chance. Alors lisons le texte. On va lire Romains chapitre 8, à partir du début, verset 1 jusqu'au verset 16. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et certains manuscrits ajoutent, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non... verset 12. Nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous arrêtons ici la lecture de la parole de Dieu. Tout ça a pu vous paraître un peu compliqué. On va regarder tout ça en détail. D'abord, on va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole et l'occasion que tu nous donnes ce soir de l'étudier, de la lire déjà et de l'étudier ensemble. Et nous prions que ces moments nous soient bénéfiques, Seigneur, grâce à l'action puissante de ton Saint-Esprit. Sanctifie ta parole, applique-la à notre vie, s'il te plaît, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à vivre selon Dieu ? Premièrement, nous devons comprendre que si nous sommes chrétiens, il y a eu un changement de verdict nous concernant au regard de la loi de Dieu. Alors, si on regarde le passage, là, dans les premiers versets, versets 1 à 4, du passage qu'on a lu, l'apôtre Paul, il va nous rappeler certaines notions qui sont essentielles à la foi chrétienne. Il nous rappelle que, par nature, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres déchus. Et parce que nous sommes déchus, nous sommes enclins à faire le mal. Et dans le passage que nous avons lu, le mot « chair » désigne en fait cette faiblesse qui est la nôtre. Par nature, donc, nous marchons, dit-il, selon la chair, c'est-à-dire que nous faisons le mal. C'est là notre faiblesse, c'est notre état déchu, parce que nous sommes séparés de Dieu, parce que nous avons déclaré notre indépendance de Dieu. Nous n'avons pas voulu vivre avec Dieu, nous avons voulu vivre dans l'autonomie. Nous sommes déchus, et donc par nature, nous vivons selon cette faiblesse qui est la nôtre, selon la chair. Nous sommes enclins à faire le mal, et la loi du péché et de la mort dont il parle ici, ça désigne cette règle selon laquelle tous les gens qui font le mal sont logiquement condamnés au regard de la loi parfaite de Dieu, d'accord ? Et ça nous concerne, nous, ça, pour ce qui concerne notre état naturel d'être déchu. C'est une condamnation qui est parfaitement juste, c'est celle que nous méritions tous même par nature. Mais Paul dit qu'il y a une autre loi dans ces premiers versets, une autre règle, un autre principe opératoire qui est, dit-il, celui de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et par cette expression, il désigne à l'inverse, il désigne tout simplement l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la venue et de l'œuvre de Jésus qui est venu parmi nous, qui est mort sur la croix en faveur des croyants. Jésus est venu vivre une vie d'obéissance parfaite à Dieu, et ensuite il a offert sa vie en sacrifice parfait de substitution. Il s'est substitué à nous sous la condamnation de Dieu pour détourner sur lui-même la condamnation qui normalement nous était réservée. Par la foi en Jésus, vous voyez, nous sommes d'une part libérés de notre condamnation, puisqu'elle s'est abattue sur Jésus au lieu de s'abattre sur nous. Nous sommes libérés de cette condamnation, mais en plus de ça, nous sommes aussi crédités en quelque sorte de l'obéissance parfaite de Jésus. Il est mort pour nous, mais avant ça, il avait vécu une vie parfaite pour nous aussi, de façon à ce que cette justice qui était la sienne, cette obéissance qui était la sienne, nous soit créditée. Donc on est délivré de la condamnation de Dieu, mais en plus crédité de l'obéissance parfaite de Jésus lui-même. Et c'est ça qui fait dire à Paul que si nous avons la foi en Jésus, alors, verset 4, alors la justice qui était prescrite par la loi de Dieu, cette justice que nous étions incapables d'accomplir, eh bien maintenant elle est accomplie en nous. Elle est accomplie en nous aux yeux de Dieu. Il y a eu comme un changement de verdict. C'est ça qui fait dire à Paul, il n'y a plus de condamnation si vous êtes chrétien. Il y a eu un changement de verdict, vous n'êtes plus condamné. Et au contraire, non seulement le compteur a été remis à zéro, mais en plus il a été crédité. Crédité de la justice prescrite par la loi, qui nous est attribuée, qui nous est imputée. Et c'est ça le sens de la justification. Nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu si nous avons placé notre foi en Jésus. D'accord ? Un changement de verdict dans la vie des chrétiens. Au regard de la loi de Dieu, nous étions coupables et condamnés, mais nous sommes maintenant justifiés et acquittés. Et ça, je le disais, c'est un point essentiel à la foi chrétienne, et c'est un point extrêmement important dans le discours de Paul ici, parce que ça veut dire que notre rapport aux exigences de Dieu est maintenant et dorénavant complètement différent. La loi de Dieu, avant, elle nous condamnait à cause de nos péchés. Mais maintenant que Dieu nous a rendus justes à ses yeux, sa loi ne nous condamne plus. Vous comprenez ? La loi de Dieu, elle est toujours la même. C'est la même qu'avant. Mais c'est nous qui ne sommes plus les mêmes au regard de la loi de Dieu. Vous comprenez ? Alors bien sûr, nous, aujourd'hui, on continue de pécher. C'est-à-dire, on continue de désobéir à Dieu. On continue de faire des choses qui ne sont pas conformes à ses exigences. Mais vous voyez, nos péchés maintenant, si nous sommes chrétiens, ne provoquent plus notre condamnation. Nos péchés, en quelque sorte, ont été désarmés. Ça me fait penser à une chanson que j'aime beaucoup, d'un groupe de rock chrétien que certains de vous connaissez peut-être, qui s'appelle Disciple en anglais. Et dans cette chanson, le chanteur, en fait, c'est vraiment bien fait, il s'adresse à ses péchés, il parle à ses péchés. Et il leur dit dans le refrain, il leur dit « Vas-y, pointe ton viseur sur mon front. Tu peux appuyer sur la détente, mais tu n'as plus de munitions. » Il y a eu un changement de verdict. Et ce changement de verdict court-circuite en quelque sorte la condamnation que provoquaient nos péchés au regard de la loi de Dieu. Nos péchés ont été désarmés, ils n'ont plus de munitions. Hein, ils peuvent nous attaquer, ils peuvent appuyer sur la détente, mais ils n'ont plus de munitions. Ils sont encore là dans notre vie, mais ils n'ont plus de puissance. Et c'est ça la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, pour reprendre l'expression de Paul dans ce passage. Ce principe opératoire de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est une expression un peu compliquée, pour désigner tout simplement l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, elle change radicalement notre rapport à la loi de Dieu. Faisons un parallèle peut-être un peu audacieux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas manger trop de sucre, n'est-ce pas ? C'est une loi en quelque sorte. Si tu manges trop de sucre, ça va nuire à ta santé. C'est déjà grave. Mais imagine maintenant que tu es diabétique. Si tu manges trop de sucre en tant que diabétique, là, c'est pas juste que ça va nuire à ta santé, ça va te tuer. En tant que diabétique, tu manges trop de sucre, tu meurs. Enfin, je dis ça sous le couvert de nos amis médecins dans la salle. Mais ton diabète, en quelque sorte, provoque ta condamnation au regard de cette loi qui consiste à ne pas manger trop de sucre. Mais imagine que tu guéris de ton diabète. Ton rapport à cette loi change radicalement. C'est toujours pas bien de manger trop de sucre. La loi en elle-même ne change pas. C'est toujours pas bien de manger trop de sucre. La loi, elle est toujours bonne pour ta santé comme pour celle de tout le monde. Mais au moins maintenant, étant guéri de ton diabète, étant délivré de ton diabète ayant été désarmé, eh ben, si tu manges trop de sucre, au moins tu ne vas pas mourir. Tu vas peut-être avoir des caries, tu vas peut-être grossir un peu, mais tu n'es pas condamné. Tu ne vas pas mourir. Tu es devenu libre par rapport à cette condamnation-là. Et de la même façon, parce qu'il y a eu un changement de verdict dans notre vie, si nous sommes chrétiens, eh bien notre rapport aux exigences de Dieu a changé. Nous sommes nous aussi devenus libres, non pas libres de faire ce qu'on veut, non pas libres de désobéir autant qu'on veut à la loi de Dieu, puisque la loi de Dieu est toujours valide, elle est toujours bonne pour nous. La loi de Dieu ne change pas, puisque Dieu ne change pas, son caractère moral ne change pas. Mais nous sommes devenus libres de la condamnation de la loi. La loi de Dieu ne nous est plus contraire, elle a été accomplie en nous. Elle nous est plus contraire, elle est maintenant accomplie en nous. Nous sommes devenus ses alliés, nous étions en quelque sorte ennemis de la loi de Dieu, mais maintenant nous sommes devenus amis de la loi de Dieu. Bien sûr, il y a encore le péché dans notre vie. Et le péché continue d'être grave. Mais à chaque fois que nous échouons dans notre marche chrétienne, le verdict de Dieu continue d'être justifié, acquitté. Je tombe encore et je pêche encore. Et je me tourne vers Dieu et le verdict, il n'a pas changé. Justifié. Alex est justifié, acquitté. La justice prescrite par la loi est accomplie en lui, comme elle est accomplie chez tous les chrétiens, chez tous ceux qui sont attachés à Jésus par la foi. Comme le disait Luther, pour ceux qui font du latin, « Simul justus et peccator ». Je suis à la fois juste et pécheur. À la fois juste et pécheur. Pécheur, mais juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, je suis déjà ce que je suis appelé à devenir. Je suis déjà aux yeux de Dieu ce que je suis appelé à devenir, comme dans le texte que Jonas a lu tout à l'heure. Lorsque Jésus se manifestera, alors nous serons semblables à lui. Mais je le suis déjà maintenant aux yeux de Dieu. Je suis déjà ce que je suis appelé à devenir. Il m'appelle à lui obéir, mais il me voit déjà comme étant obéissant. Quelle liberté cela nous donne, n'est-ce pas, au regard de la loi de Dieu, au regard de ses exigences pour nous. Qu'est-ce qui peut nous aider donc à vivre selon Dieu ? Comprendre d'abord que si nous sommes chrétiens, il y a eu un changement de verdict. Mais comprendre aussi, deuxièmement, qu'il y a eu un changement d'appartenance ou un changement d'emprise. Dans les versets suivants, versets 5 à 11, l'apôtre Paul décrit maintenant deux situations possibles pour un être humain. Les deux catégories, en quelque sorte, d'êtres humains. Soit on vit, dit-il, selon la chair, avec les tendances de la chair ou les pensées de la chair, en étant, dit-il, sous l'emprise de la chair, ou littéralement en grec, en étant dans la chair. Soit au contraire, l'autre catégorie, nous vivons selon l'esprit, avec les tendances ou les pensées de l'esprit, en étant sous l'emprise de l'esprit, ou bien dans l'esprit. Deux situations possibles pour les êtres humains. Et ces deux situations décrivent tout simplement la différence, dans le contexte ici, la différence entre un non-croyant et un croyant. Le non-croyant, conformément à ce qu'on disait il y a quelques instants, eh ben, comme nous l'étions nous aussi quand on n'était pas croyant, on vivait selon notre nature déchue. Et toute notre vie, en fait, en était affectée. Dans toutes les dimensions de notre être, nos désirs, nos préoccupations, nos pensées, nos actes étaient conditionnés par le fait que nous étions séparés de Dieu, que nous étions dans cet état déchu et dysfonctionnel. Nous étions abîmés, nous ne fonctionnions pas très bien. Et le non-croyant, il appartient à ce monde déchu et dysfonctionnel. Ses péchés entraînent logiquement sa condamnation et sa mort. Et le croyant, à l'inverse, ben lui, il a été racheté par Dieu. Le croyant, par la foi, il est attaché à Jésus et il appartient à Jésus, d'après le verset 9. Dieu a même déversé son esprit dans le croyant et c'est ce Saint-Esprit qui va appliquer de manière efficace au croyant eh bien, le salut que Jésus a acquis pour lui. Jésus a acquis ce salut à la croix par sa mort et sa résurrection. Maintenant, ce salut est appliqué puissamment, efficacement dans la vie du croyant. Et c'est ça qui va susciter chez le croyant des désirs, des préoccupations, des pensées et par conséquent des actes différents. Cette fois qui sont conformes, un peu plus du moins conformes à la volonté et au projet de Dieu. Si nous sommes chrétiens, vous voyez, il y a eu un changement d'appartenance. Nous n'appartenons plus à l'humanité déchue, mais nous appartenons maintenant à l'humanité nouvelle, rachetée, qui est en Christ Jésus. Un changement d'appartenance ou un changement d'emprise. Et cette nouvelle appartenance change aussi notre rapport aux exigences de Dieu. Autrefois, dans notre nature déchue, les exigences de Dieu, elles nous repoussaient. Mais maintenant, les exigences de Dieu, elles nous attirent. Il y a une illustration que j'ai trouvée chez plusieurs commentateurs de ce texte. C'était intéressant, c'était la même illustration, donc je la reprends, ça va être une bonne illustration. Imaginez que vous soyez un petit objet métallique, et livré à vous-même, vous êtes attiré vers le bas en raison de la loi de la gravité, n'est-ce pas? Mais maintenant, si on fait descendre un aimant au-dessus de vous, à un moment donné, l'attraction de l'aimant va prendre le dessus sur l'attraction terrestre. Et vous allez vous élever vers le haut. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, il dit que le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, c'est un petit peu comme cet aimant qui nous attire vers le haut. L'emprise de l'Esprit contrecarre l'emprise de la chair. Et Paul, il décrit ça comme étant une réalité dans la vie des croyants authentiques, c'est-à-dire dans la vie de tous ceux qui font vraiment, sincèrement, personnellement confiance à Jésus. Si nous sommes croyants, et si vous êtes croyants cet après-midi, la réalité, c'est que l'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit Saint habite en vous si vous êtes croyant, si vous êtes attaché sincèrement à Jésus par la foi. L'Esprit Saint qui est appelé aussi au verset 9 l'Esprit de Dieu et aussi l'Esprit de Christ, étant tellement uni au Père et au Fils en raison de leur nature divine commune, que Paul y dit même verset 10 que Christ est en vous. Alors on ne sait plus trop c'est quoi. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ ou c'est Christ? Mais finalement, c'est pas très important, ça revient pratiquement au même parce qu'ils ont une nature divine en commun. Ce sont les trois personnes de la Trinité. Un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes, mais qui n'a qu'une seule substance divine. Et cette substance divine, Dieu donc, habite en vous. Si vous êtes attaché à Jésus par la foi, c'est dingue, ça c'est la réalité selon l'apôtre Paul. Et si l'Esprit Saint habite en nous, nous devrions pouvoir observer dans notre vie l'effet de l'aimant qui nous attire vers le haut. Non pas comme si l'Esprit Saint forçait notre obéissance à Dieu. Hein? On ne peut pas juste se reposer un peu en arrière de façon un peu passive et laisser le Saint-Esprit nous faire obéir automatiquement, passivement à Dieu, comme si on n'avait aucun contrôle, on laisse faire. Non. Ce qui veut dire, Paul, c'est plutôt que l'Esprit Saint va avoir un effet sur nos pensées et sur nos préoccupations, ce que Paul appelle ici les tendances de l'Esprit, en tout cas dans certaines traductions. Alors, posez-vous ce genre de questions. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai envie de mieux connaître Dieu? Est-ce que j'ai envie de savoir ce que Dieu attend de moi? Non pas est-ce que je sais ce qu'il attend de moi. Est-ce que j'ai envie de savoir ce que Dieu attend de moi? Est-ce que j'ai envie de plaire à Dieu? Est-ce que j'ai envie de servir Dieu? Non pas est-ce que je sers Dieu fidèlement, mais est-ce que j'ai envie de servir Dieu fidèlement? Et votre oui sincère en réponse à ces questions, mes amis, je peux vous dire, c'est l'effet du Saint-Esprit dans votre vie qui vous attire vers le haut. Mais ce que l'apôtre Paul veut nous montrer ici, c'est que si nous comprenons mieux ce changement d'appartenance qui s'est opéré dans notre vie en tant que chrétien, et qui fait que nous sommes attachés à Christ et que le Saint-Esprit habite en nous, si nous comprenons mieux ce changement d'appartenance, eh bien ça devrait nous inciter à assumer davantage cette position qui est la nôtre. Et qui nous est décrite ici, en tant que chrétien. Imaginez que vous soyez un acteur de la vie politique française, et qu'on vous dise ces jours-ci, ou plutôt qu'on vous demande, est-ce que tu as envie que le mandat présidentiel devienne un septennat unique, un mandat limité à 7 ans? Est-ce que tu as envie qu'on supprime les membres de droit du Conseil constitutionnel? Est-ce que tu as envie qu'il y ait un revenu universel en France? Est-ce que tu as envie que le cannabis soit légalisé? Oui? Alors, vas-y, prends position et déclare ton soutien à Benoît Hamon, qui défend ces propositions-là. De la même façon, ce que la Bible nous dit ici, c'est « Est-ce que tu as envie de vivre selon Dieu ? Est-ce que tu as envie de le servir ? Est-ce que tu as envie de le connaître ?» Oui ? Ben clairement, tu as les tendances de l'Esprit Saint. Clairement, le Saint-Esprit habite en toi. Et tu appartiens à Jésus. Alors vas-y, maintenant prends position contre les tendances de la chair, les tendances qui sont contraires à celles de Dieu. Prends position contre le péché dans ta vie. Et déclare ton soutien, déclare ouvertement ton soutien à la justice de la loi de Dieu. Tu appartiens à Jésus et le Saint-Esprit habite en toi. Alors vas-y, assume maintenant, sans complexe, ce que tu es en tant que chrétien. Tu peux prendre position, vas-y. Qu'est-ce qui peut nous aider donc à vivre selon Dieu ? Comprendre d'abord que si nous sommes chrétiens, il y a eu un changement de verdict. Comprendre aussi, deuxièmement, qu'il y a eu un changement d'appartenance. Mais comprendre aussi, troisièmement et dernièrement, qu'il y a eu un changement d'esprit. Un changement d'esprit. Alors, à la fin du passage qu'on a lu, versets 12 à 16, l'apôtre Paul nous dit maintenant que si nous sommes chrétiens, nous avons comme une immense dette de gratitude envers Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu a fait des choses incroyables pour nous. Je le disais, il nous a appliqué l'œuvre rédemptrice de Jésus en nous délivrant de la loi du péché et de la mort, verset 2, on l'a vu tout à l'heure. Il nous a placés sous son emprise bénéfique, il suscite en nous de nouvelles tendances, on l'a vu ça, verset 5, verset 9. Il habite en nous par son Saint-Esprit, ce qui fait d'ailleurs habiter la plénitude de Dieu en nous, puisque c'est la nature divine qui habite en nous par le Saint-Esprit. Et c'est Christ qui habite en nous, verset 10, il nous a donné la vie éternelle, la vie de l'Esprit qui ressuscitera même notre corps après notre mort, verset 11. Alors voilà pourquoi nous avons une immense dette de gratitude envers Dieu, voilà pourquoi Paul dit que nous sommes débiteurs, verset 12. Débiteurs, il sous-entend débiteurs de Dieu, redevables à Dieu, non pas que nous ayons quoi que ce soit à rembourser auprès de Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, mais plutôt nous sommes redevables à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous dans son amour pour nous. Nous lui sommes obligés. Vous savez, cette vieille expression qui pour dénoter de la reconnaissance, nous vous sommes obligés. Nous sommes obligés à Dieu en raison de tout ce que lui a fait pour nous, par amour pour nous. Et c'est pourquoi Paul ajoute juste après qu'il devrait nous être impossible de considérer notre relation avec Dieu comme une relation de servitude. Impossible de considérer ça comme de la servitude. C'est bien plutôt, dit-il, une relation d'adoption, c'est-à-dire d'affection filiale, comme si nous étions les enfants même de Dieu. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas comme des esclaves qui servons un maître sous la contrainte, mais nous sommes comme des enfants qui suivons notre Père par amour. Si nous sommes chrétiens, il y a eu un changement d'esprit, dit Paul ici. L'esprit de servitude est changé en esprit d'adoption ou en esprit de filiation. Et cet esprit d'adoption, en fait, qui est le Saint-Esprit lui-même, et ce Saint-Esprit qui nous atteste intérieurement que nous sommes enfants de Dieu, dit Paul, cet esprit d'adoption, il change aussi radicalement notre rapport aux exigences de Dieu. Imaginez que vous soyez un jeune enfant, je ne sais pas, 5-6 ans, et un jour vous vous faites enlever par un inconnu qui vous emmène dans un pays étranger, et là il vous force à lui construire une maison sous peine d'être battu. Horrible, n'est-ce pas ? Maintenant imaginez un autre scénario. Vous vous levez un beau samedi matin et votre papa s'approche de vous tout souriant, et il vous dit « Viens mon chéri, on va faire un projet ensemble aujourd'hui. On va construire une maison. » Vous allez peut-être vous retrouver à faire exactement la même chose que dans le premier scénario, en fait. Mélanger du ciment, empiler des briques, porter des plaques de plâtre. Mais vous allez le faire avec un esprit complètement différent, n'est-ce pas ? Un esprit complètement différent. Et c'est ça que l'apôtre Paul, il veut nous faire comprendre. L'esprit de notre obéissance à Dieu devrait être complètement différent. Si nous comprenons mieux ce que ça veut dire, en fait, d'être un chrétien. Si nous avons la foi en Jésus, mes amis, alors Dieu nous voit en Jésus. Il nous voit en Jésus. Ça veut dire que nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes beaux comme Jésus. Nous sommes obéissants comme Jésus. Nous sommes justes comme Jésus. Ça veut dire que nous faisons l'objet de l'amour éternel de Dieu le Père pour Dieu le Fils. Et donc, lorsque Dieu il nous dit, écoute Alex, fais pas ci, fais pas ça, fais plutôt ceci, fais plutôt cela, voici comment tu dois vivre si tu veux que ta vie soit conforme au projet de Dieu. Alors, en lisant ça dans la Bible, il ne faut pas que je pense, oh, c'est dur, mais il vaut mieux que j'obéisse, parce que sinon, qu'est-ce que je vais prendre, hein? Non, l'esprit d'adoption, c'est pas ça, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Abba étant un terme affectueux pour désigner son papa, eh bien, cet esprit d'adoption nous fait plutôt dire, c'est dur, c'est vrai, mais c'est mon Père qui m'aime, qui me parle. C'est pour mon bien qu'il me dit ça. Et non seulement il ne me rejettera pas si j'y arrive pas, mais en plus il est là avec moi pour m'aider à y arriver. Ça change tout. Comme le dit l'apôtre Jean dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et Jean il poursuit dans ce passage en disant que si on est enfant de Dieu, alors on va logiquement se purifier. C'est l'expression qu'il emploie, l'apôtre Jean, pour dire tout simplement, on va logiquement chercher à suivre Dieu. Pas parce qu'on a peur de lui, pas parce qu'on a peur de la condamnation ou peur de la correction, mais parce qu'on l'aime. Alors oui, quand on lit la Bible, on peut trouver ça très exigeant. On peut voir que Dieu y met la barre très haut concernant ce qu'il attend de nous, les êtres humains. Oui, c'est vrai, c'est dur. C'est dur de vivre selon Dieu. Qu'est-ce qui peut nous aider à y arriver, donc? Eh bien, d'après ce texte, ce qu'il nous faut avant tout, c'est pas plus de discipline, c'est pas des châtiments plus stricts, plus sévères. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est mieux comprendre ce que ça veut dire d'être un chrétien. Mieux comprendre le verdict que Dieu prononce, non pas à notre encontre pour nous condamner, mais en notre faveur pour nous justifier si nous sommes attachés à Jésus par la foi. Un verdict, comme on le disait tout à l'heure, qui nous libère, en fait, dans notre rapport aux exigences de Dieu. Il faut mieux comprendre aussi, on l'a vu, notre appartenance à Jésus, cette appartenance à Jésus plutôt que notre appartenance à notre ancienne nature déchue. Notre appartenance à Jésus qui nous attire vers le haut et dont découlent de nouvelles aspirations, de nouvelles pensées, de nouvelles envies, de nouvelles tendances, de nouveaux désirs qui sont en fait selon Dieu et suscités en nous par le Saint-Esprit. Assumons ce que nous sommes en tant que chrétiens. Prenons position courageusement contre le péché dans notre vie. Déclarons notre soutien à la justice de la loi de Dieu. Manifestons ce soutien par l'étude de la parole de Dieu et par l'écoute et l'accueil docile de l'enseignement biblique. Et mieux comprendre enfin, et troisièmement, l'esprit d'adoption que nous avons reçu si nous avons foi en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu! Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Mais contrairement à moi, qui aime très imparfaitement mes enfants, Dieu, lui, il est toujours attentif à nos besoins. Il se rend toujours disponible pour nous aider quand nous avons du mal. Il s'emporte jamais contre nous. Il s'enferme jamais dans son bureau en disant « Je veux plus les voir, ces enfants, ils me sortent par les trous de nez. » Il est patient et miséricordieux. Il nous pardonne nos échecs, lui. Il nous relève, il nous écoute, il nous comprend, il nous accompagne, il nous garde en sécurité pour l'éternité. Si nous comprenons bien ce que nous sommes en tant que chrétiens, si nous comprenons bien et si nous comprenons mieux quelle est notre identité en Christ, notre identité chrétienne en fait, ce que nous sommes en Christ, si nous comprenons mieux quel est notre statut aux yeux de Dieu, c'est ça qui va nous aider, mes amis, à mieux vivre selon Dieu. Ça va changer notre perception des exigences que Dieu place devant nous, si bien qu'on va pouvoir dire que vivre selon Dieu, si on est chrétien, c'est pas une contrainte, mais c'est une chance. Amen. On va prier. Seigneur, nous confessons que nous... négligeons très souvent de considérer ce que nous sommes en vertu de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ en notre faveur. Parfois, nous vivons, Père, comme si rien n'avait changé ou si peu, alors qu'en réalité, il y a tant de choses qui ont changé et qui ont changé radicalement. Ton verdict est différent. Notre appartenance est différente. Nous vivons sous une emprise différente, avec des tendances différentes. Et nous avons un esprit différent. Un esprit d'adoption, le Saint-Esprit en nous qui nous atteste que nous sommes tes enfants. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à considérer ces réalités, à mieux les comprendre et que cela transforme notre rapport à ta loi, à tes exigences et que cela vraiment nous incite et nous motive à te suivre à chaque instant de notre vie tout simplement. Augmente notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.